commencer par Rony, avec un beau titre, hein, Malaise dans la laïcité, très très beau titre, et à qui je cède la parole.
Merci Stéphane. Le titre est une facilité rhétorique, hein. Je ne me situe pas dans la foulée de Freud, et je n'ai pas non plus l'intention d'interpréter les questions que je vais soulever dans le cadre freudien. Donc c'est une facilité que je me suis donnée, c'est tout, rien de plus. Mais et c'est donc simplement un titre, Malaise dans la laïcité, un titre à interpréter littéralement, pas métaphoriquement, pas philosophiquement, mais littéralement. Ça fait un certain temps, d'ailleurs j'en avais parlé ici même dans une discussion sur la question de l'universalité des valeurs. Ça fait un certain temps que cette notion de laïcité, enfin non pas la pratique de la laïcité, car moi qui suis athée, revendiqué et évidemment laïque, je ne me sens pas mal à l'aise avec l'idée de laïcité, naturellement, mais ça fait un certain temps que je me sens très mal à l'aise avec le discours sur la laïcité et un certain nombre des pratiques politiques qui s'y rattachent. Et c'est de cela que je voudrais parler. Et comme Stéphane m'a contacté en janvier, hein, si je me souviens bien...
Décembre même.
Ah, c'était en décembre, d'accord. Bon, la question la question était reposée du fait des attentats contre Charlie et de l'espèce de cristallisation des discours à laquelle on a assisté, enfin des discours sur la liberté et la laïcité, pour l'essentiel, à laquelle on a assisté à ce moment-là. Et c'est donc dans cet état d'esprit que j'ai réfléchi à la présentation que j'allais faire aujourd'hui, qui se résume en fait à quelques réflexions partagées, et non pas un texte de colloque, évidemment, avec toute sa structure, sa bibliographie, etc. Je commencerai par constater à quel point, ce qui peut se comprendre d'ailleurs dans l'émotion de l'après-coup, mais tout de même, il y a un moment où la raison doit reprendre un peu les rênes, à quel point on a, de façon très opportuniste, identifié caricature et liberté. J'ai été frappé dans plusieurs débats qui avaient lieu à la suite des attentats. J'ai été frappé de cette mise en équivalence, le caricaturiste étant un peu le joyau, le bijou de la démocratie, le signe manifeste de sa vitalité, et toute atteinte, c'est d'ailleurs plutôt dans ce sens-là évidemment que le raisonnement fonctionne, toute atteinte à sa liberté est en fait une attaque contre la démocratie, ce qui faisait de Charlie l'emblème de la liberté et de ceux qui l'attaquaient l'emblème de ceux qui veulent la détruire. Et c'était tout de même frappant de voir, et c'est sur ce point que je veux insister, c'était tout de même frappant de voir à quel point l'amnésie envahissait les débats, les esprits. L'amnésie de ce qu'a été la caricature dans l'histoire de France. Moi, j'ai en tête un certain nombre de dessins qui m'ont été montrés quand j'étais jeune, qui n'avaient rien de la liberté et tout de l'insulte raciste, antisémite. Et une partie, je ne veux surtout pas stigmatiser la caricature, à l'inverse de la manière dont elle a été célébrée comme quelque chose de sacré. Je veux simplement rappeler que dans la caricature, il y a la manifestation de l'esprit et la manifestation de son contraire, et que elle n'est pas en elle-même une valeur. Or, elle est devenue, parce que c'était la caricature de Mahomet qui était en question, me semble-t-il. Et c'est le premier élément de malaise que je veux partager. La laïcité, me semble-t-il, notion extrêmement française qu'on a appelée, enfin certains de ces critiques, qui ne sont pas ces contempteurs, mais simplement des gens qui se mettent un peu à distance réflexive de la notion, certains de ces critiques ont appelé catholaïcité, pour bien souligner le caractère particulier de la laïcité française, qui était une laïcité de combat contre le catholicisme, avant de devenir d'ailleurs une laïcité beaucoup plus apaisée, qui est la neutralité des consciences, la neutralité de l'État face aux religions, qui est une posture, une philosophie dans laquelle, personnellement, je me reconnais pleinement. Je ne sais pas si c'était utile de le dire, mais en tout cas, je le rappelle. Mais ça n'était pas exactement le cas au début, pour des raisons qui se comprennent parfaitement. Le catholicisme était une religion de pouvoir en France, et la laïcité consistait à séparer le pouvoir politique du pouvoir religieux. Et donc, c'était une entreprise qui exigeait une certaine tension, une certaine agressivité politique. Même, ça a été un combat qui divisait le pouvoir et opposait une partie de la société et une partie du pouvoir. Donc ça, c'était historiquement, je pense, une caractérisation importante à rappeler. Aujourd'hui, il me semble qu'un certain discours laïque, qu'on pourrait appeler laïcard peut-être, reprend cette posture offensive, mais sur le mode de l'hostilité à l'islam ou aux musulmans. Alors là, je ne suis pas très sûr de la manière dont il faut formuler la chose, mais je sens une tension agressive dont les discours extrêmement virulents sur le port du voile, qui n'est d'ailleurs pas un voile mais un foulard, et il y a quelque chose, je pense, de significatif dans ce déplacement des signifiants. Le voile, c'est ce qui cache, le foulard, c'est ce qui entoure, on pourrait dire que c'est ce qui souligne. Donc il y a une transformation là, et un usage sémantique qui sont, je pense, significatifs, révélateurs de ce fond d'hostilité sur lequel on pourrait discuter. Je ne veux pas occuper trop de temps dans ma présentation, mais je veux commencer par ce constat qui me paraît objectif. Il me semble, et là c'est un point de vue beaucoup plus personnel, je veux dire beaucoup plus subjectif, que je vais partager. Il se trouve que je suis juif, disons, inscrit dans une tradition philosophique. Je l'ai dit, je ne suis pas religieux, je ne pratique pas, je ne pratique rien. Je ne suis pas marié à une juive, je n'ai pas de vie juive, donc je veux limiter la signification de cette affirmation, mais bon, un certain nombre de penseurs juifs du XXe siècle m'intéressent plus que d'autres. L'histoire des juifs, y compris l'histoire tragique, mais pas seulement, m'intéresse. Donc c'est dans cette tradition, disons, philosophique ou intellectuelle que je me situe. Et si je rappelle ça, c'est pas pour faire mon intéressant, c'est pour justifier l'angle d'examen que je vais prendre maintenant. Car je pense que il est bon de rappeler qu'il y a en effet une religion dominante en France et des religions minoritaires. Il y a le protestantisme, naturellement, inscrit de longue date avec les tensions et violences que l'on se souvient, et puis il y a le judaïsme et l'islam. Et je mets ici le protestantisme de côté, car il me semble qu'il n'est pas du tout concerné. En revanche, les questions politiques, sociales, même métapolitiques posées par les deux autres me semblent centrales. Et je dirais que l'éléphant dans la salle, dans cette histoire, ou l'autre éléphant dans la salle, après le premier que j'ai dit, c'est-à-dire cette hostilité ou cette méfiance profonde vis-à-vis de l'islam, c'est le judaïsme ou la question juive, comme on pourrait dire, la question musulmane en parallèle. Et pour rester dans le cadre que les attentats contre Charlie ont installé, je rappelle, hein, l'essentiel de la chose, ça a été les caricatures du Jilan Post, avec notamment l'une d'entre elles qui figurait Mohamed avec un turban qui était une bombe, et qui était donc une identification, on ne peut plus claire, pas du tout allusive, mais directe, de l'islam et son personnage emblématique, et de la terreur. Personnellement, ce genre de caricature, je ne le trouve ni drôle, ni significative, ni rien du tout. Il va de soi, je suis contre la peine de mort pour Hitler, pour Dutroux, pour tout le monde, donc je suis contre la peine de mort pour ce caricaturiste que j'estime être un type d'extrême droite, mais l'extrême droite n'est pas, n'est pas justiciable de la peine de mort. Donc ces attentats sont ignobles et... ça va de soi, mais ça va peut-être mieux en le disant. Mais le dessin était ignoble également. Je ne le mets pas sur le même plan tué et dessiné, mais à un certain niveau, cette caractéristique quand même s'impose. Et je la trouve, je trouve le problème d'autant plus sensible que il est, c'est là que ça rejoint le début de mon propos, il est concentré sur... l'islam, et on tiendrait pour antisémite, donc relevant de des tribunaux et de la condamnation morale sans appel, un dessin qui assimilerait les juifs par exemple à des tueurs d'enfants palestiniens, à des lanceurs de missiles, à des hélicoptères de combat contre des civils, ou à des gens qui cherchent à étrangler toute une population parce que elle ne leur plaît pas. On tiendrait également pour antisémites des dessins ou des caricatures même textuelles qui feraient des juifs les précurseurs des génocides, il se trouve que la Pâque arrive, et la Pâque juive coïncide évidemment avec la Pâque chrétienne qui est issue d'elle. Et je ne sais pas s'il y a des gens d'origine, de culture juive dans la salle, mais s'il y en a, ils se souviendront de la prière de Pâques, qui est donc la Haggadah, cet échange entre un jeune et un ancien qui cherche à caractériser ce qu'est la nuit de Pâques particulièrement. Et lorsqu'on lit en français, c'est accessible partout, la Haggadah de Pessah, que j'ai moi-même lu quand j'étais jeune, pendant des années, avec mon grand-père, on est effrayé, parce que c'est un appel répété à la tuerie et des remerciements incessants adressés à Dieu pour les vengeances les plus atroces qu'il va abattre sur tous ceux qui sont considérés comme des ennemis ou une menace pour les juifs, donc y compris les nouveau-nés, les innocents, les puits de sang, etc. Donc, est-ce que les juifs se ramènent à cela ? Évidemment, non. Est-ce que les musulmans se ramènent aux sourates du Coran qui sont sans cesse rappelées ? Évidemment, non plus. Donc la question est celle du droit à la profanation, qui est partagé entre un segment de la population qui en est justiciable, et un autre qui y échappe méthodiquement. Et cela introduit une concurrence extrêmement malsaine de victimes et de revendications et de griefs, qui est totalement déséquilibrée. Concurrence à laquelle il faut rajouter le fait que d'un côté on est organisé, et de l'autre on ne l'est pas. Il se trouve que je citais Pessah qui arrive bientôt, mais ce dont on sort l'événement qui a, enfin un des événements qui a marqué l'actualité récemment, donc ces deux choses bornent un peu notre réflexion là, c'est le dîner du CRIF. Donc cette espèce comme Alain Finkielkraut, sur lequel je suis on a un désaccord à peu près total, à peu près compte, parce qu'il y a quand même des points d'accord. D'ailleurs, je citerai un autre point qui vient de Finkielkraut sur lequel je suis d'accord. Mais donc là, en l'occurrence, Finkielkraut a qualifié cet événement mondain de tribunal dînatoire. Je trouve l'expression heureuse, c'est pour ça que je la reprends à mon compte. Je signale d'ailleurs qu'il n'est plus d'accord aujourd'hui et qu'il trouve que le dîner du CRIF est une très bonne chose, ce qui va avec son évolution générale. Quelle autre communauté, car il s'agit bien là d'un événement communautaire, pourrait rassembler avec d'ailleurs un prix extrêmement élevé qui, je le signale au passage, c'est peut-être mesquin, mais c'est tout de même pas totalement dénué de signification, est subventionné par le fait qu'il est déductible des impôts. Donc ce dîner du CRIF, qui est un véritable tribunal devant lequel comparaissent la plupart des ministres et devant lequel se prononce donc le président de la République lui-même. Dans un discours de justification avec échange de textes auparavant, et qui est le moment qui me glace chaque année, car je me dis que c'est un aliment qui va nourrir pendant des mois tous les discours antisémites sur le complot, le contrôle, l'influence, etc. Donc, ce droit à la profanation, il est évidemment, je ne dirais pas total, n'exagérons pas, mais assez largement affirmé comme une liberté fondamentale d'un côté et comme un tabou non moins fondamental de l'autre. Quoi de mieux pour nourrir une sorte de guerre des cultures, une tension intercommunautaire et en tout cas une concurrence malsaine, corrosive des victimes, à mon avis, à peu près rien. On est là dans une affirmation oblique, judéo-centrée, qui est extrêmement préoccupante. Au passage, je signale, pour terminer ce point, Charlie, que cette hypersensibilité à l'antisémitisme et à tout ce qui peut y conduire ou le caractériser ou pointer vers lui, hypersensibilité qui se comprend au demeurant dans l'histoire. Il y a eu tout de même Pétain et le statut des Juifs qui ne peuvent pas être ignorés comme ça. Mais alors, quitte à se référer à l'histoire, prenons-la dans son ensemble et rappelons-nous, face aux effarements sur la présence d'ailleurs très largement exagéré des musulmans. C'est que un sondage a montré que des gens croient que 30% de la population en France est musulman, quand il y en a moins de 8%. C'est-à-dire l'importance prise par les discours anti-musulmans fait qu'on a l'impression qu'il y a une sorte d'envahissement démographique de l'islam, alors qu'il y a un envahissement des discours sur l'islam. Et il y a une sorte d'échange entre les deux qui est assez significative. Assez significatif. Mais ces 8% si j'ose dire, ils doivent nous rappeler, puisque on s'intéresse à l'histoire, qu'au début du siècle dernier, avec l'Angleterre d'ailleurs, la France était la première puissance musulmane du monde, en rivalité avec l'Angleterre, la France coloniale, impériale. Et avec aussi l'histoire particulière donc des empires coloniaux et de la manière dont ils ont traité, d'ailleurs de façon différenciée, ne confondons pas toutes les situations, mais de façon tout de même ici et là extrêmement violente cette population. Donc là aussi, dans cette invocation de l'histoire, on retrouve un partage, une inégalité fondamentale qui doit, je pense, être mise sur la table si l'on veut comprendre l'ensemble des enjeux. Mais cette hypersensibilité, je l'évoquais parce que j'allais venir à un débat avec Val Philippe Val, donc je reviens à Charlie, que j'ai eu il y a de cela quelques années à Genève, avec pour toile de fond le projet suisse de pénaliser la négation du génocide arménien. Et c'était donc la question de l'exportation de la loi Guesso et de son adaptation à la question arménienne, car je crois que la pénalisation de la négation du génocide juif est déjà en vigueur en Suisse, donc c'était une autre pénalisation. Quoique, en le disant, je ne suis plus trop sûr, je m'excuse, j'aurais dû vérifier, mais faute de temps, je ne l'ai pas fait. En tout cas, c'était une loi Guesso sur l'Arménie que nous discutions là. Et j'expliquais pourquoi il me semble que la loi Guesso était une mauvaise loi, à la fois sur le plan de la philosophie du droit et sur le plan des implications politiques qu'elle emporte. La philosophie du droit, parce que le législateur n'a pas à fixer des cadres de réflexion aux universitaires, aux chercheurs ou à la société en général. Et par ailleurs, pénaliser la négation d'un événement historique, c'est entraîner la même mécanique appliquée à d'autres et nourrir ce que j'appelais avant, déjà, enfin ce que j'appelais avant d'ailleurs, le mot n'est pas de moi, nourrir la concurrence des victimes. Au passage, je signale justement, peut-être pour s'il n'est pas connu, un livre remarquable qui m'a beaucoup marqué, qui a été publié il y a une quinzaine d'années, qui s'appelle « La concurrence des victimes », écrit par un sociologue belge qui s'appelle Jean-Michel Chaumont, qui était, en fait, c'est sa thèse de sociologie, dont le directeur était Zvetan Todorov, qui a écrit une remarquable préface à ce livre, un livre touffu, c'est une thèse qui a été réécrite, certes, mais enfin, je la signale comme ça, c'est paru à La Découverte, et c'est extrêmement tranchant. Il a été financé dans ses recherches par la Fondation Auschwitz de Bruxelles. Il s'est ensuite un peu brouillé avec eux parce que certains de ses membres trouvaient, certains de ses membres, hein, pas tous, que cette notion de concurrence des victimes était insultante pour certaines victimes. Bref, concurrence des victimes oblige, on discute avec Val, et Val, incapable, semble-t-il, Val déjà, directeur de Charlie Hebdo, hein, c'est dans ce contexte-là qu'il s'exprimait, tranche avec l'arrogance méprisante qui le caractérise, car c'est la structure même du personnage. Et je sais que je suis enregistré, je ne crains pas d'être repris sur ce genre de choses, avec cette arrogance du « mais pff, tous ces arguments que j'avance sont nuls et l'avenue, parce que la loi Guesso, c'est ça, et c'est comme ça. C'est comme ça. » Discours parental, discours paternel, pourquoi il faut aller que j'aille me coucher à cette heure-ci, il est seulement 9h, parce que c'est comme ça. Voilà. Et pourquoi la loi Guesso? Parce que c'est comme ça. Dans quel autre cadre pourrait-on s'autoriser ce genre de choses? Je n'en vois pas. Mais je vois que je traîne, j'ai combien de temps encore, non? C'est ça?
On a jusqu'à midi et demi. Hein.
Oui, mais enfin, je ne vais pas occuper toute la place. Je voudrais redonner un autre exemple, en fait, terminé pour... Enfin, en arrivé à, disons, pas ma conclusion, mais ma proposition de chute. Il se trouve que, pour une autre... comment dire, pour un autre travail, je regardais... je faisais une petite recherche dans Internet sur Gaza, les engagements variés des uns et des autres, et je suis tombé sur ce site qui s'appelle Europe-Israël, parce que je cherchais à faire un parallèle entre les engagements radicaux, disons, en général, qui conduisent à l'exercice de la violence, éventuellement à tuer des gens qu'on n'a jamais vus auparavant et qui, a priori, ne vous attaquaient pas. Et il y a évidemment les engagements politiques, disons, la première moitié du siècle, le plus commun, le plus célèbre étant celui des brigades internationales, Et je tombais, je suis tombé là sur donc un appel, enfin des appels répétés et des témoignages de gens qui ont répondu à cet appel, de jeunes qui sont partis combattre, qui sont engagés dans l'armée israélienne et qui faisaient partie des troupes de choc qui ont attaqué Gaza l'an dernier. Leurs lettres sont tout à fait intéressantes à lire, elles sont publiées, enfin certaines de ces lettres sont publiées sur ce site, mais bon, il était clair que ils allaient combattre le terrorisme islamiste et que toutes les méthodes étaient bonnes. On a vu l'an dernier, au moment de la guerre de Gaza, enfin c'est d'ailleurs difficile à caractériser, est-ce que c'était une guerre, une agression, bon, enfin bref, appelons guerre de Gaza pour faire simple, on a vu ce qu'il en était, et sur ce site, on appelait à aider trois unités de l'armée israélienne en, avec des GPS, des bottes ultra-résistantes pour conditions extrêmes, des vêtements, je sais pas quoi. Enfin, évidemment, pas, il ne s'agissait pas d'envoyer des armes. Parce que ça, c'est vraiment impossible. Mais tout ce qui n'était pas directement de l'ordre de l'arme ou de la munition était concerné. Et là encore, on faisait un don à Europe Israël, on recevait un reçu SERFA qui permettait donc la déductibilité des impôts. Donc il y avait une demande directe de subvention, de soutien à une armée d'occupation, à une armée en posture de combat, en train de faire ça. Et je me souviens d'ailleurs, lors d'une polémique publique à laquelle j'ai été mêlé au moment de Gaza, j'avais co-signé un texte, je dis co-signé parce que je ne l'avais pas écrit en l'occurrence, mais avec Régis Debray et Christiane Essel et Edgar Morin, donc condamnant, bon, etc. Et à cette tribune parue dans Le Monde ont répondu d'autres tribunes, dont une signée de Claude Lanzmann, qui ne manquait pas de jus, parce qu'elle se terminait par une justification, je dis bien une justification, d'une attaque d'un missile ou de deux missiles envoyés sur l'Institut culturel français de Gaza, attaque au cours de laquelle le directeur de l'Institut culturel français, un Français donc, un diplomate français, et sa fille ont été blessés. Non seulement les Israéliens ont refusé de s'excuser face à cette attaque caractérisée, mais, enfin plus exactement, non seulement ils ont refusé de s'excuser, mais en plus ils ont accepté, Netanyahou lui-même a accepté le fait que c'était une attaque caractérisée, et il l'a revendiqué. Donc c'était pas une bavure, c'était pas un accident de tir, c'était une attaque délibérée. Les coordonnées GPS figuraient bien dans la tête du missile qui a frappé. Et la raison en était que cet institut culturel multipliait les contacts avec les Palestiniens et que ça, décidément, ça embêtait fortement les Israéliens. On pourrait d'ailleurs citer d'autres exemples d'agressions contre des diplomates français liés au conflit israélo-palestinien, mais ce que je veux dire, c'est que non seulement ça a été revendiqué, on le tient de Hollande, de François Hollande lui-même, qui a déclaré être furieux de cela, mais c'était dans une réunion où figuraient, où étaient présentes des ONG, mais ça n'a jamais été publiquement dit. Malheureusement, ces ONG n'ont pas relayé le discours. Donc cet événement n'a pas été rendu public, bien qu'il soit déjà officialisé par cette déclaration faite au sein de l'Elysée devant des ONG. Il se trouve qu'il y avait MSF et que c'est comme ça que je l'ai appris. Mais Lanzmann, à la fin de son papier de réponse à notre condamnation de l'attaque de Gaza, justifie l'attaque contre un institut culturel français. Donc on a d'un côté des jeunes qui se vantent d'aller combattre... d'aller casser du palestinien, d'aller d'une espèce de ratonnade qu'a été la guerre de Gaza, qui se vantent d'aller y participer, qui ne sont nullement inquiétés. Mais moi, je ne demande pas qu'ils soient traînés devant des tribunaux pour actes de terrorisme. Ça n'est pas comme ça que je vois les choses, mais qu'au moins la discussion publique puisse s'établir et qu'une réprobation argumentée, claire contre ce genre de pratique existe. Moi, je ne considère pas que les tribunaux sont les lieux privilégiés du débat public, mais des enceintes publiques, la presse, ça, oui. Eh bien, c'est un autre, voilà, un des constituants de l'éléphant dans la salle dont je parlais au début, et je parle sous le contrôle de gens qui lisent, je suppose, attentivement les journaux, mais moi, personnellement, je n'ai vu aucune condamnation des propos du propos de Lanzmann, aucune réaction effarée dans comment un citoyen français qui approuve l'attaque d'un lieu diplomatique français. Imaginons ce qu'il en aurait été si, je ne sais pas, le recteur Boubaker ou un dignitaire musulman approuvait l'attaque d'un lieu culturel ou d'un lieu diplomatique français. On crierait à la trahison, regardez, échec de l'intégration, tout ça a foiré, interrogeons-nous sur la République, la place de l'islam, enfin, etc. Là, aucune interrogation, tout va de soi, mais de fait, rien ne va de soi, car ce genre de choses ne passe pas inaperçu, simplement, il est bloqué dans les médias, il trouve évidemment des issues dans ce qu'on appelle les réseaux sociaux, où là, toute une macération, tout un discours qui se nourrit, qui fait son miel de de ce silence précisément et de ce contraste entre les discours, prospère d'une manière extrêmement préoccupante et nourrit de fait, en effet, et là, il faut bien rejoindre, même si on se sépare sur les dynamiques qui ont conduit à cette réalité, qui nourrissent de fait un néo-antisémitisme de ressentiment, de guerre, qui malheureusement a des éléments objectifs à se mettre sous la dent, ce ressentiment n'étant pas une fabrication conceptuelle, mais une réaction à toutes sortes d'événements standards. Et je ne parlerai pas du soutien à Tsahal, alors là je l'appelle Tsahal, ce que j'évite de faire, moi je ne donne pas un petit nom coquet à une armée, mais là c'est le soutien à Tsahal, soutien appuyé dans les synagogues, transformé en lieu de... Enfin transformé, je veux dire, c'est le lieu de prière et de culte naturellement, mais à l'intérieur desquels aussi toute cette rhétorique de la lutte pour la civilisation contre la menace terroriste islamiste se déploie à bride abattue et au moment des grands événements, face type Gaza l'an dernier, les sermons sont des sermons sionistes et non pas juifs. Et je rappelle tout de même qu'il y a une différence de fond et que pendant très longtemps, discours juif et discours sioniste non seulement étaient séparés mais étaient opposés. Hein. Et personnellement, je me situe dans la tradition des juifs opposés au sionisme. Mais il semblerait que cette tradition n'ait plus aucune, pratiquement plus aucune place dans l'espace public. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette question du rapport entre laïcité, question juive, question islamique, et j'insiste sur le fait que c'est la question de la concurrence des victimes qui me semble être absolument fondamentale à considérer dans cette perspective. Et je termine par l'autre partie des leçons qui ont été tirées, à savoir l'enseignement de la laïcité. Donc là, je rejoins peut-être plus directement le sujet qui est traité aujourd'hui. L'enseignement de la laïcité qui prend la forme, enfin en tout cas quand on l'entend, moi je ne suis pas enseignant, enfin si je suis enseignant, mais pas dans... J'enseigne les enjeux humanitaires à Sciences Po, donc je suis loin de ces questions-là, mais l'enseignement dans les collèges et lycées de... la laïcité, des principes de la laïcité, des principes de la République, compte tenu de ce que je viens de dire et qui est présent évidemment sous une forme plus flottante, mais enfin qui est présent dans la tête d'un grand nombre de jeunes, et pas seulement de jeunes musulmans, j'insiste là-dessus, n'ethnicisons pas ce genre d'impression, elle est beaucoup plus répandue que cela. L'enseignement sous forme d'une inculcation, c'est-à-dire d'une répétition, un martèlement des principes républicains, ne peut produire rien d'autre qu'une sorte de raidissement hostile. C'est une règle qu'on observe à peu près partout. Quand on vous force à croire quelque chose, vous croyez le contraire. Il n'y a rien de nouveau dans ce genre de choses, rien de spécifique, mais tous les enseignants savent cela. Mais l'inculcation des grands principes écrits avec des majuscules semble échapper à ce constat empirique assez simple. Et peut-être à votre étonnement, c'est là que je rejoindrai Finkielkraut sur un point très précis. Je pense que cette inculcation républicaine est inutile et contre-productive, et que, en revanche, du point de vue de l'enseignement, c'est la question du libre examen, ça c'est ce que j'ajoute, la question du libre examen qui est en compte, j'en dirai deux mots après, est celle de l'apprentissage de la langue, car c'est la condition pour exister socialement, en particulier dans notre pays, peut-être plus en France que ailleurs, mais que ce soit plus ou pas, finalement, on a que peu d'importance, mais c'est l'apprentissage de la langue, et donc avec ce que ça comporte d'apprentissage littéraire également, qui me semble bien plus important que et qui n'a rien à voir avec l'inculcation, naturellement, permet de construire des liens, de réfléchir ensemble. Et je termine là-dessus. La formation à la question du libre examen est absolument fondamentale. Donc l'exercice du doute méthodique cartésien, dont nous célébrons si souvent les mérites, constatons-le, est accompagné d'une obligation de suspendre tout droit au doute dès lors qu'il s'agit d'un certain nombre de choses. Et ça, c'est une contradiction dans les termes qui est absolument intenable. Le droit au doute, le droit au libre examen, c'était par exemple le droit à s'associer de façon partielle ou à ne pas s'associer au slogan « Je suis Charlie ». Eh bien, constatons que ça n'est pas le doute, mais le soupçon qui est un discours de soupçon qui sont nés de l'opposition d'un certain nombre de jeunes à l'affirmation « Je suis Charlie ». Tout le monde n'avait pas envie de dire « Je suis Charlie », mais tout le monde était moralement obligé de dire « Je suis Charlie », et quiconque entendait échapper à cette injonction se trouvait sous le couperet d'un soupçon terrible de trahison des idéaux républicains. C'est le contraire même de l'esprit de libre examen auquel nous sommes invités. Donc s'il s'agit de former au libre examen, acceptons-en les conséquences dans leur ensemble et pas simplement le rail dans lequel on veut être placé. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais envahir même toute la discussion. Je vous remercie de votre attention.
Merci, Ronny. Je pense que ce que tu as dit est effectivement tout à fait en phase avec nos réflexions de toute l'année dernière, puisqu'on luttait contre le dogmatisme de la laïcité pour précisément l'envisager aujourd'hui comme un engagement politique. Et ce que tu dis, effectivement, renforce les analyses qu'on avait fait dans le texte « Je suis Charlie » et après, qui est sur le site de regard qu'on avait envoyé, qu'il faut parvenir à dépasser l'exportation du conflit israélo-palestinien qui est en train de pourrir, de corroder, comme tu l'as souligné, toutes les relations entre guillemets interreligieuses en France. Et je pense que c'est cet engagement politique qui nous permettra justement cette réflexion, ce droit au doute qui nous permettra peut-être laisser quelques réflexions à la salle avant de passer la parole à...
Je ne sais pas si... Bon, je pourrais peut-être simplement proposer des questions d'éclaircissement.
Oui, oui, mais je pense que c'est bien qu'on fasse circuler la parole.
Allez. Ben, je vous remercie beaucoup pour l'exposé. Et justement, par rapport à la cité, vous avez expliqué un petit peu la construction, c'était une cité de combat. Donc, moi, je suis très frappé, quand même, depuis, parce que je m'intéresse à la question depuis quelques années, de l'absence de débat en France autour de la laïcité, autour de la République. Parce qu'on a l'impression qu'on reste sur un modèle qui est figé, c'est-à-dire la République une et indivisible. Et donc, à chaque fois, par exemple, qu'on parle de multiculturalité laïciste, de communauté, tout de suite on ferme le débat en disant attention, communautarisme. Et donc on ignore complètement là, vous parlez d'accommodement raisonnable. On ignore complètement le traditionnement anglo-saxonne par rapport à la prise en compte de multiculturalisme dans la sphère publique. Donc on ferme complètement le débat. Et moi je suis par rapport à sur Charlie, quand on dit que je suis Charlie, c'est exactement ça. Si on ne se rend pas dans ce cadre. On est, voilà, fait partie de cette communauté républicaine unie indivisible, on est forcément un ennemi. Et donc moi, par rapport à toute l'évolution, parce qu'en 30 ans, on voit quand même quelque chose moi, qui m'interpelle beaucoup. Personnellement, j'ai fait les marches des Verts en 83-84, et il me semble qu'il y avait une question qui était posée justement par rapport à ce débat public, qui était, je me rappelle, un des slogans, c'était « La France est quand même oubliée par l'ancien, besoin de mélange ». Il y avait l'idée quand même qu'une prise en compte des différences, une expression des différences culturelles à la sphère publique, et on l'a complètement fermé. Donc résultat, on est fait, on a cristallisé les choses, c'est de savoir est-ce qu'il y a une possibilité que cette laïcité évolue, qu'il y ait une certaine prise en compte, sur qu'est-ce qui dérange en fin de compte par rapport, vous parlez du foulard, du voile, c'est que c'est visible. C'est un signe visible. Parce qu'en France, on oublie, mais il y a d'autres gens qui vont en communauté, c'est normal, quand vous venez d'un pays étranger, vous avez tendance à vous voir dans votre communauté, dans la communauté portugaise, ils se réunissent. Voilà. Communauté chinoise aussi. Donc pourquoi on est incapable en France de se dire qu'il pourrait y avoir des aménagements quand on voit ce qui se fait dans les autres pays, essayer de réfléchir à ça, plus toutes les dimensions que vous disiez.
Est-ce qu'il y a une autre remarque, question?
Oui, juste en fait un éclaircissement sur la place de victime. Pour les conférences des victimes. Alors pourquoi cette posture ou cette place de victime est tellement prisée par tout le monde? Quels sont les enjeux, les fantasmes nourris autour de ça?
Peut-être un mot sur la question. C'est plus une remarque qu'une question. Moi, je serais ça, je pense qu'on a. Mais ça, je vois, c'est justement tout l'enjeu de cette association que de réfléchir sur cette question. Donc c'est évident, le bon endroit pour la poser, toute la question est celle de l'issue publique des réflexions qui sont produites ici. Quant à la question de la victime comme statut enviable, je cherche la référence, c'est pour ça que. J'ai en tête un très beau texte de Todorov, un penseur que j'apprécie énormément, sur cette question et une réflexion sur, disons, la société post-héroïque. Les héros d'aujourd'hui sont les secouristes et les victimes, de cette manière. Ça, c'est pour moi une réflexion. Disons assez ancienne et familière, parce que elle est inscrite dans ma réflexion critique sur les enjeux philosophiques de l'humanitaire, disons. Mais je n'ai pas de réponse. Je n'ai qu'une observation d'une évolution qui, par exemple, pourrait être décrite autrement comme le fait que les médailles militaires. J'ai pas fait d'études précises, mais à l'occasion de quelques événements, j'ai pu observer cela. Ça demanderait à être confirmé par une étude, mais les distinctions militaires qui sont données aux soldats sur le champ de bataille, enfin après le champ de bataille, et il y en a eu depuis les années 90, on a des soldats qui combattent qui ont été dans des situations de combat dans. Maintenant quand même pas mal de pays, ces distinctions sont destinées essentiellement à des gens qui ont sauvé leurs camarades. plutôt que des gens qui ont tué des ennemis. Et j'ai insisté à deux, trois, j'ai vu les comptes rendus, j'étais pas présent, à deux, trois distinctions de ce type, et la répétition m'a frappé. Parce que c'est ça. Et je pense que c'est l'effet, c'est un des effets notoires à la fois de l'individualisation, donc ce phénomène de fond qui est à l'œuvre depuis plusieurs siècles, donc qui n'a. Vraiment, qui surgit, qui ne cesse de surgir, et depuis longtemps, et l'autre, celle des déchaînements de violence dont l'Europe est à l'origine au XXe siècle, et qui ont finalement disqualifié, peu à peu disqualifié la violence. Et le mélange des deux, la réflexion, l'horreur inspirée par les déchaînements de violence du XXe siècle et l'individualisme me semble déboucher, c'est finalement la seule cause d'ensemble qui vaille, c'est celle du secours, la seule personnalité qui soit d'une certaine manière hors de soupçon, c'est la victime. Et il y a évidemment toute une réflexion sur ce qui vous qualifie comme victime. Ça, c'est qui est victime, qui n'est pas victime, qui est responsable de son sort, qui le subit. Ça, ce sont ce sont ces questions-là que j'essaie de soulever dans ma réflexion, enfin dans une des réflexions sur l'humanitaire. Mais voilà comment je décrirais le processus qui a conduit à ça.
Oui. Je voudrais dire que dans ce malaise avec la laïcité, il y a aussi le problème de l'exclusion, qui a des répercussions politiques, hein, bien sûr. Et, parce que pas plus tard que ce matin, donc à 10h15 dans le RER, je monte dans le RER et à côté il y avait une femme élégante, jeune, probablement avenante, mais qui était en belphégor, hein, c'est-à-dire on ne voyait que les yeux. Et j'ai donc changé de rame. Je l'ai exclue de mon champ. J'ai dit, j'ai pas envie d'être avec une personne comme ça à côté. Et donc, venant à ce séminaire, étant sensibilisé à la laïcité, à l'ouverture, etc., etc., j'ai eu spontanément une réaction d'expulsion. C'est un tout petit élément, évidemment, et la dame ne me connaît pas, etc., mais dans tout le débat sur la laïcité, il y a aussi l'expulsion, en l'occurrence l'expulsion de l'islam, du musulman, comme vous l'avez dit, en faisant la différence, etc. Et ça crée un malaise.
Oui, indiscutablement. Moi, je ressens le même malaise que vous devant une femme boîte aux lettres, comme on dit ailleurs, ou belphégor. En effet, la dissimulation du visage cause nécessairement ce malaise. Ça, c'est un problème. Est-ce que ça relève de la laïcité ou d'autre chose? Ça mériterait d'être discuté. Je pose cette question sans arrière penser parce que je n'ai pas la réponse. Elle me vient dans notre dialogue là. Mais en tout cas, oui, ce malaise, il est présent. Et l'interdiction de la dissimulation du visage, dès lors que c'est l'interdiction de la dissimulation du visage en général et pas de certaines formes de dissimulation du visage, personnellement, ne me choque pas. Je trouve que l'État, le législateur ont ici rendre compte de ce malaise dont les femmes belphégor sont la dimension essentielle que l'on observe aujourd'hui, mais pas nécessairement la seule.
Je ne suis pas du tout d'accord avec le nécessairement. Ça ne cause pas du tout nécessairement un malaise. C'est une construction sociale du monde.
J'ai un souvenir précis dans les camps de réfugiés afghans de la puissance érotique du regard éclairé par le soleil derrière le grillage. C'est... Pour autant, quand même, quand on dit je me vois au sens belphégorien du terme par liberté, quelque part ça me paraît quand même un oxymore.
Enfin, je me rappelle un article très frappant que j'avais lu, je crois que c'était un article d'Olivier Roy, qui me semble aussi être l'un des penseurs de ces questions les plus éclairés et les plus stimulants qui comparaissent, enfin je ne suis pas sûr que c'était un article de lui, c'était une tribune dans Le Monde, mais qui comparait ce qui s'appelait le voile et le string, et qui comparait les usages du corps des femmes, les usages sociaux du corps des femmes, et qui renvoyait aussi à une certaine vision punk de cela, enfin qui mettait en parallèle ces usages-là. C'est après que bien souvent dans la punkitude il y a des mutilations, mais enfin des atteintes au corps, des habillages définitifs du corps avec le tatouage, le piercing, qui renvoie finalement le voile à quelque chose d'assez anodin, parce qu'il suffit de l'enlever pour que toute trace disparaisse.
David ?
Oui, quand on dit que ce n'est pas nécessairement un malaise, une atteinte de se retrouver face à une femme qui voile son visage, je trouve que c'est très difficile quand même. Je suis une femme, et quand je suis en face d'une femme qui se comporte comme ça, j'ai un malaise. Pourtant, vraiment, je considère qu'on doit avoir la liberté de monter son corps comme on le souhaite. C'est vrai que je suis en très grande contradiction avec moi-même, mais que finalement, je prends le choix, je prends vraiment la posture de ne pas le supporter. Je trouve que c'est un outrage à ma personne qu'une femme en face de moi vienne montrer quelque chose de féminin. Parce que moi, je le prends comme ça, comme Elisabeth Badinter, comme Assia Djebar, qui vient de mourir là, qui a écrit des choses merveilleuses sur cette question, et notamment sur le plaisir qu'elle avait enfant grâce à son père, qui la prenait par la main pour l'emmener à l'école en Algérie. À l'époque, c'était quand même pas fréquent, parce qu'elle était une fille et qu'elle apprenait le français, puisqu'elle est arrivée à être une des premières à être agrégée et avoir plus quelle qualification, en même temps que Simone de Beauvoir, d'ailleurs, je crois, sur la langue française, alors qu'elle était d'origine algérienne, puisque c'est en Algérie, elle disait le plaisir qu'elle avait de ressentir le vent et le soleil dans ses cheveux et sur son visage. Et ça m'est resté comme une force extraordinaire. Je me demande, enfin c'est tout à fait anodin ce que je suis en train de dire, mais vraiment ça, je me dis que c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est très très important de penser qu'elle a vraiment une mutilation symbolique. Je le crois vraiment. Et ça me choque terriblement. Alors je ne change pas de drame. Mais je n'ai pas que de la compassion pour la personne qui est en face de moi dans cette forme. Je me sens agressée. Voilà. C'est personnel, hein.
Puisque j'ai le micro, j'en profite. Personnellement, je ne ressens aucune compassion parce que je crois savoir, enfin, on a de bonnes raisons de penser, en tout cas, que ce sont des actes de liberté et non pas des situations d'oppression. La liberté de s'asservir étant une liberté. Je renvoie au grand texte sur la question. Donc, nulle compassion, ça, c'est sûr. Le fait que quelqu'un décide de ne pas éprouver le plaisir du vent et du soleil sur son visage, le regarde, les bonnes sœurs, de ce point de vue-là, ne sont pas mieux loties. Moi, la seule chose qui me semble difficile à accepter, c'est la dissimulation méthodique du visage dans l'espace public, quelles que soient les nuances érotiques que le regard peut porter, parce qu'après tout, de toute façon, ça n'est pas contradictoire, bien sûr, et c'est aussi une question d'époque, là-dessus, je vous rejoins tout à fait, effectivement, une époque construit un regard, et le nécessairement doit être historicisé, comme d'ailleurs les pratiques des mariages arrangés, qui, sous nos climats, semble aujourd'hui une espèce de forfait, d'horreur absolue, alors même que, d'une part, dans un certain nombre de couches sociales, y compris celles que, je sais pas, nos rois et nos reines européen pratique le mariage arrangé avec les conséquences qu'on voit parfois, et puis surtout dans notre histoire. Enfin, c'était la pratique pendant des siècles et des siècles, et ce n'est que très récemment, longtemps après la naissance de la République d'ailleurs, que la pratique des messages des mariages arrangés a peu à peu disparu. Donc cette espèce de... Enfin, il y a une certaine hystérisation du débat public sur ces questions dont, à mon avis, il faut avoir conscience pour arriver à les refroidir un petit peu. Mais la question aussi est de savoir si ce qui choque un certain nombre de gens doit faire l'objet d'une législation ou pas. Et jusqu'où, par exemple, si j'insiste sur le fait que c'est la dissimulation du visage et rien d'autre qui me semble gênant, c'est parce que, par exemple, je trouve extrêmement choquante l'interdiction faite à des femmes portant le foulard de participer à des sorties d'enfants dans le cadre scolaire. Hein, disons, l'extension du syndrome Babylou, enfin, ce qu'on appelle le syndrome Babylou, enfin, de l'affaire Babylou. Et ce que j'entends, c'est que le regard d'enfant ne doit pas se poser sur des visages de femmes encadrés par un foulard. Mais ça, enfin, ne doit pas, on ne sait pas très bien pourquoi. Donc ça, je pense que c'est à envisager de manière distincte. C'est pour ça que pour moi, seule la question du visage compte, pas celle de la liberté, pas celle de la compassion, car la plupart sont libres. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de rencontrer des thésards de sociologie qui faisaient une enquête sur cette question, une enquête d'ailleurs qui est notamment filmée, disponible sur Internet, sur YouTube, et qui vraiment défait cette impression que les femmes qui portent ce voile intégral, le hijab, sont le font sous la pression d'un père, d'un mari, d'un grand frère. Non, c'est généralement en toute liberté. Beaucoup d'ailleurs de jeunes convertis portent. Enfin bref, voilà, je m'arrête.
On va peut-être passer la parole à Étienne. Le loup dans la bergerie.
Oui.